de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
Bonsoir tout le monde, comment allez-vous? Ravi de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Je vais vous présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, le commentaire, l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, apprendre l'indonésien et des chansons indonésiennes. Comme d'habitude, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde.
RRI, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Bonsoir à tous. Bienvenue dans le programme des journaux. Aujourd'hui, on commence par le titre « L'Indonésie soutient la lutte des Palestiniens », a affirmé le vice-ministre de Religion. La demande à l'exécutif de répondre au projet du Japon d'éliminer les déchets nucléaires dans la mer. 8 634 546 citoyens indonésiens ont reçu une dose complète du vaccin. La Grande-Bretagne coopère avec des groupes religieux pour réussir la vaccination. L'armée philippine bat ISIS dans la ville de Datu Paglas. Les appels de l'Inde à un confinement national se multiplient. Le pape François appelle à la fin de la violence à Jérusalem. Bon cher lecteur, voici les journaux incomplets. Le vice-ministre de Religion Zainul Tauhid Saadi a souligné que le peuple indonésien soutenait toujours la lutte du peuple palestinien pour obtenir ses droits en tant qu'État et nation indépendant et souverain. C'est ce qu'a affirmé le vice-ministre de Religion dans sa déclaration écrite à Jakarta dimanche dernier. Il a déclaré que les actions de la police israélienne contre les Palestiniens qui ont tiré des balles en caoutchouc et de grenades assourdissantes sur des jeunes Palestiniens à la mosquée Al-Aqsa de Jérusalem étaient extrêmement odieuses. De plus, la dispersion et les tirs contre la mosquée Al-Aqsa se sont déroulés au milieu d'une colère croissante face au potentiel de l'expulsion des Palestiniens des terres revendiquées par les colons juifs. Zainul a invité le peuple indonésien à continuer à soutenir le peuple palestinien et tout en priant pour que le Créateur lui apporte aide et sécurité. Pendant ce temps, le Conseil des Oulémas indonésiens, ou MUI, a déclaré que le pays international doit faire pression sur Israël pour qu'il soit sanctionné après avoir attaqué les Palestiniens à la mosquée Al-Aqsa. Membre de la Commission 4 de la Chambre des représentants de la République d'Indonésie en charge de l'environnement, Daniel Johan, a demandé à l'exécutif de répondre immédiatement fermement au projet japonais de rejet de déchets nucléaires dans la mer. Daniel, par une déclaration écrite à Jakarta dimanche dernier, a souligné que ce danger doit être sérieusement traité par le gouvernement et a immédiatement envoyé une note d'objection de protestation. Le gouvernement japonais a approuvé un plan visant à éliminer plus d'un million de tonnes d'eau usée de la centrale nucléaire de Fukushima ou centrale nucléaire dans la mer. Cela a reçu de vives critiques de la part de divers partis, voire le rejet de pêcheurs japonais eux-mêmes. Un certain nombre de pays ont également critiqué le plan du Japon, comme l'ont montré la Chine et la Corée du Sud. Si le plan japonais est mis en œuvre, Daniel craint que les poissons et autres êtres vivants soient contaminés par les déchets nucléaires et mettent la communauté en danger. Le groupe de travail COVID-19, groupe de travail a apporté que jusqu'à 8 634 546 Indonésiens avaient reçu une dose complète de vaccin jusqu'à dimanche dernier à 12h heure locale. Le nombre total de personnes qui ont reçu les deux doses du vaccin a connu 50 692 personnes supplémentaires. L'augmentation du nombre de receveurs de la deuxième dose de vaccin était légèrement inférieure au nombre de receveurs de la première dose de vaccin le même jour de 56 532 personnes. Avec cet ajout, le nombre de receveurs de la première dose de vaccination s'élève désormais à 13 340 957 personnes. En plus de la mise à jour pour les receveurs de première et deuxième dose de vaccin, le groupe de travail COVID-19 a également publié un objectif de vaccination de 40 349 049 personnes. Le gouvernement britannique collabore avec les communautés interconfessionnelles, à savoir les chrétiens, les musulmans, les juifs et les chiites, pour étendre la zone de vaccination et intensifier le programme. Cela a été dit dimanche par Gilles Ganouni, responsable de l'engagement au Service national de santé, ou NHS, de la région de Northam en Grande-Bretagne. Elle a déclaré que sa partie anticipait les demandes des groupes minoritaires au Royaume-Uni concernant les vaccinations et coopérait avec les administrateurs des mosquées, des églises, des synagogues, des gurdwaras et d'autres lieux de culte. En outre, Gilles Ganouni a révélé que sa partie était reconnaissant de l'enthousiasme des parties interconfessionnelles à soutenir le programme de vaccination. Des dizaines de militants musulmans philippins liés à l'État islamique d'Irak et à la Syrie ou ISIS ont attaqué une ville du sud des Philippines. L'incident a impliqué les militaires dans une fusillade samedi qui s'est terminée lorsque les forces gouvernementales les ont chassés. Les militants avec les combattants de la liberté islamique de Bangsamoro ou BIFF sont entrés dans la ville de Datu Pagelas dans la province de Maguindanao à l'aube. On revendique qu'ils s'emparent du marché public selon le porte-parole militaire, le lieutenant-colonel Jean-Paul Baldomar, cité dimanche d'Eurasie-Aravieu. Baldomar a déclaré que le gouvernement avait immédiatement envoyé des troupes là-bas pour évacuer les civils. Il a affirmé que les forces gouvernementales avaient réussi à repousser les militants. Baldomar a déclaré qu'il n'y avait eu aucun rapport d'otages pendant le siège du marché par les militants. Il a déclaré que les forces militaires avaient verrouillé l'autoroute menant à la ville pour assurer la sécurité publique. Le nombre de morts de COVID-19 en Inde est passé à plus de 4000 au deuxième jour consécutif dimanche, alors que les appels à un confinement national pour freiner la propagation du coronavirus. Le ministère indien de la Santé a signalé 4092 décès au cours des dernières 24 heures, portant le nombre total de décès dus à COVID-19 à 242 362. Le nombre de nouveaux cas a augmenté de 403 738, soit un peu moins que le chiffre record et portant le nombre total de cas depuis le début de la pandémie à 22,3 millions. L'Inde a été durement touchée par la deuxième vague de la pandémie de COVID-19 avec des cas et des décès atteignant un record tous les deux jours. Avec la privation d'oxygène et les lits de soins aigus dans les hôpitaux, ainsi que les morgues et les crématoriums complets, les experts disent que le nombre de cas de COVID-19 ainsi que le nombre réel de décès peuvent être beaucoup plus élevés. Le soutien a afflué de divers pays à travers le monde sous la forme de bouteilles d'oxygène et de concentrateurs, de ventilateurs et d'autres équipements médicaux. Le pape François appelle à la fin de la violence qui sévit à Jérusalem. Il a appelé les parties concernées à trouver des solutions pour respecter l'identité multiculturelle de la ville sainte. Le pape François a dit cela à la congrégation qui s'est réunie sur la place Saint-Pierre à Rome dimanche dernier. Des affrontements entre les Palestiniens et la police israélienne ont éclaté samedi à l'extérieur de la vieille ville de Jérusalem. Les affrontements ont été déclenchés par les efforts de la police israélienne pour disperser des milliers de musulmans palestiniens qui priaient, ainsi que pour commémorer Laylatul Qadr à la mosquée Al-Aqsa. Des efforts de démantèlement ont été menés à l'aide de grenades assourdissantes et de canons à eau. Les jeunes Palestiniens ont ensuite combattu la police israélienne en lançant des pierres et des bouteilles et en abattant des barricades policières dans les rues menant aux portes de la vieille ville de Jérusalem. Selon le Croissant Rouge palestinien, au moins 53 personnes ont été blessées dans l'incident. Pendant ce temps, la police israélienne a déclaré qu'un de ses membres avait été blessé. C'est le journal d'aujourd'hui.
Bonsoir à tous, vous écoutez toujours La Voix de l'Indonésie et bientôt je vais vous présenter les commentaires d'aujourd'hui intitulé « L'Indonésie vers un développement sobre en carbone ». Vous êtes avec moi Audrey. Chers amis, bien qu'il n'y ait pas de calendrier clair, l'Indonésie a établi un certain nombre de scénarios dans un effort pour parvenir à un développement à faible émission de carbone ou à zéro émission nette. Pour cela, il y a un besoin de synergie ou de connectivité entre les secteurs. Le directeur de l'environnement du ministère de la Planification nationale et du développement, Agence nationale de planification et de développement, Medril Zam a déclaré que le développement sobre en carbone a été inclus dans le plan national de développement à moyen terme 2020-2024. Et c'est devenu l'un des programmes prioritaires. Cela a été révélé dans un webinaire intitulé « L'opportunité de l'Indonésie d'atteindre la neutralité carbone avant 2070 », mercredi 28 avril 2021. Sur la base d'une étude menée par l'Agence nationale de planification et de développement, le calcul du scénario zéro émission doit se référer à un certain nombre de principes, entre autres, les politiques de zéro émission doivent être conformes aux objectifs de la vision 2045 de l'Indonésie, tout en poursuivant des réductions d'émissions de 29% en 2030. En outre, l'approche adoptée doit être globale dans tous les secteurs. Les estimations des gaz à effet de serre dans les secteurs de terre et de l'énergie pour les politiques zéro émission de 2045 à 2070 ont également été calculées. Cela nécessite une superficie supplémentaire de 300 à 350 000 hectares par an et une augmentation du reboisement de 250 hectares par rapport à la politique existante. Parallèlement, dans le secteur de l'énergie, cela se fait par l'utilisation de nouvelles énergies renouvelables, accompagnées d'une augmentation de l'efficacité énergétique pour atteindre 6 jusqu'à 6,5% en 2050. En outre, des efforts de réduction des déchets sont également menés à partir de la circulaire économie grâce à l'efficacité des ressources naturelles pour réduire la production de déchets liquides. Sur le plan fiscal, l'élimination des subventions au carburant et l'application d'une taxe carbone sont nécessaires. Jusqu'à présent, la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le secteur de l'énergie est toujours conforme à l'objectif et sera augmentée pour atteindre l'objectif de contribution nationale de réduction des émissions de 29% d'ici 2030. Le principe contribution des mesures d'atténuation et le nouveau programme d'énergie renouvelable et d'énergie efficacité. Cependant, les efforts pour l'augmenter sont encore limités par les coûts d'investissement qui ont tendance à être coûteux et le manque de maîtrise de la technologie. Quelles qu'en soient les raisons, l'Indonésie doit continuer à poursuivre l'objectif fixé lors de la conférence des parties sur le changement climatique, connu sous le nom d'accord de Paris en décembre 2015. Si cet objectif n'est pas atteint, cela aura certainement un impact négatif sur l'Indonésie, tel comme l'augmentation des températures, les changements de précipitations et l'élévation du niveau de la mer. L'Indonésie sera également frappée par des vagues extrêmes qui augmentent de plus de 1,5 mètre. Pour réaliser le scénario créé par le gouvernement, chaque individu peut contribuer par exemple en réduisant l'utilisation d'énergie fossile, en réduisant le brûlage des terres et des ordures, en replantant des arbres, etc. Si cela est fait, il n'est pas impossible que l'Indonésie soit en mesure de réaliser la contribution nationale à la réduction des émissions de 29% avant même 2030. Bon, chers auditeurs, c'est tout le commentaire.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku を着用して COVID-19 の感染拡大を防ぎましょう. 私のマスクはあなたを守る。あなたのマスクは私を守ってくれる。
وقو انتقال فيروس كوفيد 19 من خلال ارتداء الأقنعة بشكل صحيح. قناعي يحميكم وقناعكم يحميني.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión.Usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo de getting overbragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Bonsoir à tous, maintenant c'est le temps pour l'histoire d'aujourd'hui. Et on va commencer l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 10 mai 1920, né Rosihan Anwar. Sœur Jamie Rosihan Anwar naît à Kubang Nandua, à Solok, dans l'ouest de Sumatra, le 10 mai 1920. Est une importante presse indonésienne, historienne, écrivaine et humaniste.Rosihan est un écrivain très productif. Le nom de Rosihan Anwar est légendaire dans le monde du journalisme. Son nom est également connu dans le monde de la culture et de la littérature. Le surnom, une note de base de page de l'histoire, était autrefois attaché de sa figure. Sa carrière de journaliste a commencé à l'âge de 20 ans. Jusqu'à sa mort,pas moins de 20 titres de livres et de certains articles de son travail avaient honoré les journaux et magazines indonésiens et même les publications étrangères. Rosihan a commencé à sa carrière de journaliste pour Asia Raya pendant l'occupation japonaise en 1943, jusqu'à ce qu'il devienne le rédacteur en chef de Siasat.1947-1957 et de Guidelines 1948 et 1961. Il s'est également impliqué dans le monde du cinéma en créant la National Film Company Perfini en 1950 avec Usmar Ismail.Chargeritaire, on continue avec l'événement du 10 mai 1940. L'Allemagne envahit les Pays-Bas. La bataille des Pays-Bas faisait partie de l'invasion allemande de la Belgique, du Luxembourg, des Pays-Bas et de la France pendant la Seconde Guerre mondiale. Cette bataille a lieu du 10 au 14 mai 1940, lorsque les principales troupes hollandaises se rendirent. Cette bataille a conduit à la victoire de l'Allemagne et à la destruction de la ville de Rotterdam par les bombes. Chers amis, on finit l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 10 mai 1994.Mandela est inauguré en tant que président. Nelson Mandela est un combattant pour la justice. Mandela a passé une grande partie de sa vie de prison en prison. Cependant, son esprit combatif n'étant jamais éteint, le 10 mai 1994, Mandela a prêté serment en tant que premier président noir d'Afrique du Sud. Après son entrée en fonction, Mandela a créé une commission Vérité et Réconciliation pour enquêter sur les violations des droits humains pendant la période de l'apartheid. Il dirige également un certain nombre d'initiatives visant à améliorer le niveau de vie des Sud-Africains noirs. En 1996, Mandela a supervisé la promulgation de la nouvelle constitution sud-africaine avant de se retirer de la politique en 1999, à l'âge de 80 ans. Bien qu'il ne soit plus président, Mandela est resté impliqué dans les efforts visant à instaurer la paix et la justice sociale dans le monde jusqu'à sa mort en décembre 2013. Bon, chers auditeurs, c'est tout l'histoire d'aujourd'hui.
la première chanson indonésienne, J'espère que vous l'aimez. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz. Chers auditeurs, voici mon Indonésie.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici mon Indonésie et pour le titre, Erlangga Hartarto encourage les exportations de plantes ornementales. Les efforts du gouvernement pour continuer à augmenter divers produits d'exportation porteront leur succès. L'un d'eux est l'augmentation des exportations de plantes ornementales et de semences de légumes. Lors de la libération de ces exportations de produits de base à Bogor jeudi 6 mai, le ministre de la coordination de l'économie, Erlangga Hartarto, a apprécié le travail acharné du ministère de l'Agriculture qui continue d'encourager l'augmentation des exportations de produits agricoles, y compris les plantes ornementales. Il espère que cette réalisation sera maintenue et continue d'être améliorée en facilitant le processus d'exportation. Erlangga a déclaré que les plantes ornementales ou floriculture avaient une part de marché importante. Il a déclaré que l'Indonésie ne devrait pas perdre face à d'autres pays qui exportent des produits similaires, par exemple les Pays-Bas. Selon lui, si les Pays-Bas peuvent exporter à grande échelle, alors l'Indonésie peut le faire aussi. De plus, l'Indonésie a la ville de Bogor et ses environs qui ont un climat très favorable. La valeur des exportations de plantes ornementales indonésiennes, selon le registre de l'Agence centrale de statistiques BPS, par an de 2017 à 2020, était en moyenne de 20 millions de dollars américains ou l'équivalent de 290 milliards de rupiah. Cette condition offre des opportunités aux entrepreneurs nationaux car le potentiel de développement de plantes ornementales tropicales en Indonésie est très élevé. Pendant ce temps, le ministre de l'Agriculture, Syahrul Yasin Limpo, qui a également accompagné Erlangga pour lancer les exportations de plantes ornementales et des semences de légumes, a exprimé sa gratitude et sa reconnaissance au ministre de la Coordination des Affaires économiques pour son soutien et son attention jusqu'à présent dans le secteur agricole. Syahrul Yasin Limpo a déclaré que tout au long de 2020, les exportations de plantes ornementales indonésiennes ont atteint 53 milliards de rupiah avec les pays de destination tels que les Pays-Bas, l'Amérique, le Canada, l'Australie, la Thaïlande, l'Allemagne, l'Angleterre et Singapour. Il a ajouté que jusqu'en avril 2021, le volume de plantes ornementales exportées était 8,5 millions de tiges, soit l'équivalent de 22,6 milliards de rupiah. Chers auditeurs, c'était mon Indonésie pour ce soir.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie, la diffusion en français.
Kau tak pernah berubah, kau masih saja dengan beratnya kau tak suka apa kata ayah. Jadi pembatas ruang gerakmu berkarya.
Kau orang kata ya, kau orang kata ya, kau orang kata ya, ah, kau. maksud hatiku ingin bebaskanmu. Sekilas yang aku dengar, sekilas yang aku dengar.
Chers auditeurs, vous venez d'écouter la chanson indonésienne. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde, en plus de la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz. Vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.it. Maintenant, nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien.
Bonsoir, chers auditeurs et auditrices. Nous continuons notre émission ce soir avec le programme Le magazine culturel. Pour ce soir, nous vous invitons à visiter l'île de Nirup à Riau. Chers auditeurs, l'île de Nirup est juste au sud-ouest de l'île de Batam. Une partie de la côte, les forêts de mangroves poussent assez denses, tandis que de l'autre côté, il y a des arbres denses typiques des forêts tropicales, en habitat pour la faune comme les singes, les lézards et les oiseaux marins. L'île de Nirup possède également un littoral assez long associé à du sable naturel, ce qui rend cette île très appropriée pour la tenue de diverses activités sportives de plage telles que le volley de plage et le football de plage. Avec une telle topographie insulaire, si vous visitez cette île, vous pouvez camper, installer des tentes et passer la nuit ici. Pour ceux d'entre vous qui veulent faire de la plongée en apnée, l'île de Nirup peut également être un endroit préféré. Les récifs coralliens prospèrent ici, ainsi que les habitats marins tels que les poissons colorés et d'autres espèces marines. L'île de Nirup est en fait située dans des eaux semblables à la baie ou dans la partie nord, elle est adjacente à l'île Puchan. Parce qu'elle est flanquée d'un groupe d'îles, les vagues et les vents qui frappent l'île sont relativement calmes, donc cela ne met pas en danger ceux d'entre vous qui veulent nager ou faire d'autres activités. De l'ouest de l'île de Nirup, vous pouvez voir librement l'île de Pemping qui est habitée par plusieurs familles de pêcheurs. Pour aller à l'île de Nirup depuis la ville de Batam, vous devez vous rendre au port de ferry de Sekupang. De là, vous devez prendre un bateau pour le quartier de Belakang Padang. Le billet de bateau coûte environ 10 000 rupiah par personne pour en aller seulement depuis Belakang Padang. Continuez votre voyage en louant un bateau pour l'île de Nirup. Le prix de location du bateau dépend de votre accord avec le batelier. Le trajet de Belakang Padang à Nirup dure environ 20 minutes. Avant de vous rendre sur l'île de Nirup, assurez-vous d'apporter vos propres nourritures. car il n'y a pas de restaurant sur cette île. Pour ceux d'entre vous qui souhaitent passer la nuit, il n'y a pas d'hôtel ici, mais vous pouvez installer des tentes près du rivage. Assurez-vous également d'avoir apporté votre matériel de camping. Chers auditeurs et auditrices, c'était le magazine culturel pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À demain!
Terasa indah hariku melihat senyumanmu, kau di sisiku.
Setiap kali ku lihatmu, kau meyakinkan hatiku untuk bersamamu selalu.
Semua cerita antara kita ku simpan di hati. Ku berharap berakhir bahagia. Ku akan menanti.
Dan ini mimpiku menjalani hidup ini. Takkan ku kecewakanmu, kan ku jaga segalanya. Dan kaulah jiwaku, dengarkanlah suara hati. Takkan ku memaksakanmu, karena semua ini hanya mimpi.
Kau memiliki sesuatu yang bisa memikatku. Kaulah cintaku.
Terbayang dalam anganku, ku ingin memilikimu. Karena kaulah jiwaku.
Semua cerita antara kita ku simpan di hati. Ku berharap berakhir bahagia. Akan menanti.
Dan ini mimpiku menjalani hidup ini. Takkan ku kecewakanmu, kan ku jaga segalanya. Dan kaulah jiwaku, dengarkanlah suara hati. Takkan ku memaksakanmu, karena semua kecewakanmu, kan ku jaga segalanya. Dan kaulah jiwaku, dengarkanlah suara hati. Takkan ku memaksakanmu, karena semua ini hanya mimpi.
Semua ini hanya mimpi, menjalani hanya mimpi.
Takkan ku kecewakanmu, kan ku jaga segalanya.
Chers auditeurs, vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde. amplitude de la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz, vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voynews.id. Et la rubrique suivante, voici Apprendre l'indonésien. Bonsoir tous les amis, on se retrouve dans l'émission Apprendre l'indonésien, une collaboration entre Voice of Indonesia, la station de radiodiffusion à l'étranger, le RRI, avec l'Agence nationale pour le développement et le renforcement de la langue du ministère de l'Éducation et de la Culture de la République de l'Indonésie. Le sujet d'aujourd'hui est sakit, sakit en français malade. Je vais vous donner une conversation dont le titre est Apakah Anda pernah berobat di sini? Je répète, apakah Anda pernah berobat di sini? Signifie, avez-vous déjà eu un traitement ici? C'est une conversation entre Kevin et le personnel de la clinique. La réservation d'hôpital a salué l'arrivée de Kevin. Bonne écoute.
Selamat pagi, apakah Anda pernah berobat di sini sebelumnya?
Iya, pernah, Bu.
Après avoir fait écouter la conversation, je vais vous introduire des expressions et des phrases liées au sujet d'aujourd'hui. Apakah Anda pernah berobat di sini? Apakah Anda pernah berobat di sini? Signifie, avez-vous déjà eu un traitement ici? Je vais prononcer doucement et lentement chaque mot ou chaque phrase deux fois. Vous pouvez les répéter après moi. Pernah. Pernah signifie déjà. Berobat. Berobat signifie avoir un traitement. Di sini. Di sini signifie ici. Sebelumnya. Sebelumnya signifie avant. Apakah Anda pernah berobat di sini sebelumnya? Apakah Anda pernah berobat di sini sebelumnya? Signifie, avez-vous déjà eu un traitement ici avant? Apakah Anda pernah sakit tifus? Apakah Anda pernah sakit tifus? Signifie, avez-vous déjà eu le tifus? Apakah Anda pernah dioperasi? Apakah Anda pernah dioperasi? Signifie, avez-vous déjà subi une intervention chirurgicale? Belum pernah. Belum pernah signifie jamais. Saya pernah berobat di sini sebelumnya. Saya pernah berobat di sini sebelumnya. Signifie, j'ai déjà eu un traitement ici avant. Dans la conversation, vous entendez la question « Apakah Anda pernah berobat di sini sebelumnya? » Je répète. Apakah Anda pernah berobat di sini sebelumnya? Signifie, avez-vous déjà eu un traitement ici avant? Dans cette question, il y a le mot pernah. Pernah signifie déjà. Le mot pernah, pernah signifie déjà est utilisé quand quelqu'un a vécu ou fait quelque chose d'inhabituel ou non permanent. Pour demander à quelqu'un s'il a fait quelque chose ou non, vous pouvez utiliser l'expression Apakah Anda pernah? Apakah Anda pernah signifie avez-vous déjà? Par exemple, apakah Anda pernah berobat di sini sebelumnya? Je répète, apakah Anda pernah berobat di sini sebelumnya? Signifie, avez-vous déjà eu un traitement ici avant? Un autre exemple. Apakah Anda pernah sakit tifus? Apakah Anda pernah sakit tifus? Signifie avez-vous déjà eu le typhus? Pernah. Pernah signifie déjà. Apakah Anda pernah dioperasi? Apakah Anda pernah dioperasi? Signifie avez-vous déjà subi une intervention chirurgicale? Belum pernah. Belum pernah signifie jamais. Saya pernah berobat di sini sebelumnya. Saya pernah berobat di sini sebelumnya. Signifie j'ai déjà eu un traitement ici. Oh, baik. Oh, baik signifie ah, bien. Avant de terminer, apprendre l'indonésien aujourd'hui, pour mieux comprendre, écoutons encore une fois la conversation.
Selamat pagi, apakah Anda pernah berobat di sini sebelumnya?
Iya, pernah, Bu.
Chers amis, voilà l'émission Apprendre l'indonésien d'aujourd'hui. J'espère que cette édition pourra être utile pour vous. Merci de votre attention. Au revoir.
Can't stop playing.
Chers auditeurs, voilà la dernière chanson que vous écoutez. Et nous continuons notre programme avec les informations musicales. Bonne écoute.
Bonsoir à tous, maintenant c'est le temps pour le magazine musical. Et je vais vous présenter une chanson croncheon intitulée Kidung Surgawi, chantée par Suruti Respati. Chers auditeurs, cette chanson religieuse a été créée par Coco Tolé. Les paroles de cette chanson décrivent l'incertitude du cœur d'une personne dans le calme de la nuit. Coincé entre le choix de la vie terrestre et la vie éternelle, à la fin de cette chanson, nous nous invitons tous à préparer des provisions pour la vie éternelle. Bon, cher Jolitar, voici une chanson croncheon intitulée Kidung Surgawi, chantée par Suruti Respati. Bonne écoute. Thank you.
jiwa yang terlena.
Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde. Au revoir.